Vous écoutez Radio France Internationale, il est 3h ici à Paris, 1h en temps universel, 10h à Tokyo.
Gali Bonin.
À la une de ce journal, les bourses asiatiques ouvrent en baisse malgré la suspension des tarifs douaniers américains. Cette pause dans la guerre commerciale doit être le moment pour les pays de négocier avec Washington. Mais certains points restent intouchables, précise le ministre français de l'économie. La trêve commerciale, oui, mais pas pour tous. La Chine reste visée par des droits de douane de 145%. Et Pékin riposte, dernière interdiction en lice, l'accès des films américains au marché chinois. Au Gabon, plus qu'une journée de campagne avant l'élection présidentielle, notre correspondant à Libreville est allé tâter le pouls des électeurs à la veille de ce scrutin important. Malgré la brouille, le Panama permet aux militaires américains de se déployer à proximité du canal et la sélection officielle du Festival de Cannes est enfin sortie avec des films du monde entier. Vous entendrez le directeur artistique de la compétition à la fin de ce journal. La suspension des droits de douane supplémentaires américains n'aura pas suffi à rassurer les bourses mondiales. Après avoir rebondi jeudi, les places financières asiatiques ouvrent en baisse ce matin, recul à Séoul et surtout au Japon, où l'indice phare de Tokyo a plongé de plus de 5%. Séance difficile à Wall Street également, qui a terminé dans le rouge. Et symbole de l'incertitude ambiante grandissante, l'or, considéré comme une valeur sûre, a atteint un nouveau record, propulsé par des investisseurs à la recherche de stabilité. Et après la suspension des tarifs, l'heure est aux négociations entre Washington et ses partenaires internationaux. L'Union européenne a suspendu sa riposte aux droits de douane américains pour 90 jours. Et pour Éric Lombard, ministre français de l'économie, les discussions peuvent désormais s'ouvrir, même si certains points restent non négociables.
Il faut qu'on se donne le temps de la négociation. Les Américains nous ont toujours dit qu'ils souhaitaient que les négociations commencent le 22 avril lors des réunions de Washington, auxquelles je serai présent, et nous verrons si nous pouvons avancer. Et j'ai bon espoir qu'on puisse avancer. Bien, il y a une demande en fait du président Trump de négocier à la fois des tarifs douaniers, mais nous souhaitons qu'il reste à un niveau très bas, et puis de négocier peut-être certaines normes, mais nous, beaucoup de nos normes sont le produit de nos décisions démocratiques et ne sont pas négociables. Donc nous verrons comment est-ce que nous pouvons, entre ces différents sujets, trouver un accord qui permette de stabiliser l'économie mondiale et de surtout donner un cadre qui maintienne le libre-échange, puisque le libre-échange, c'est une bonne chose pour tous les pays qui y participent.
Éric Lombard, ministre français de l'économie, au micro de Léonard Jochem. Et si Donald Trump propose une trêve de guerre commerciale à une soixantaine de pays, un seul n'y échappe pas. C'est la Chine. Les importations chinoises aux États-Unis seront maintenant taxées à 145%. La contre-offensive chinoise grimpe à 84%. Et Pékin veut aussi restreindre immédiatement l'import de films américains. L'administration nationale du cinéma de Chine l'a annoncé jeudi. Lia Roisin.
En limitant ses films, Pékin s'en prend aux services. Et c'est un bon moyen de représailles, car en matière de services, les États-Unis ont un excédent commercial avec la Chine. Cette mesure est surtout symbolique, les productions américaines sont déjà très contrôlées. Depuis 1994, Pékin n'importe que 10 films américains par an. Parmi eux, Minecraft rencontre un grand succès. Depuis le week-end dernier, cette adaptation du célèbre jeu vidéo est en première place. 10% de ses recettes internationales se font en Chine. Mais c'est une exception. Ces dernières années, les spectateurs chinois boudent les films hollywoodiens. Ils préfèrent les blockbusters locaux. Leur pays est le deuxième marché mondial du cinéma. En somme, cette décision n'aura pas de grandes conséquences pour les consommateurs, mais elle impacte les studios de production. Hier, à New York, les actions de Walt Disney et Warner Bros. Ont chuté.
Les précisions de Lia Roisin-Pilot. Une libération de prisonniers russes et américains a eu lieu jeudi, nouveau signe du réchauffement diplomatique entre les deux superpuissances. La binationale Xenia Karelina, condamnée pour trahison en Russie en 2024, a été échangée contre Arthur Petrov. Il était accusé par la justice américaine d'avoir soutenu l'effort de guerre russe en exportant illégalement des composantes électroniques. L'opération, la deuxième du genre depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Maison-Blanche a eu lieu aux Émirats arabes unis et est survenue le jour même où avaient lieu de nouvelles discussions russo-américaines en Turquie. La Turquie, justement, où la justice a ordonné la libération d'une centaine d'étudiants emprisonnés pour avoir participé aux manifestations qui ont suivi l'arrestation du maire d'Istanbul. Les rassemblements organisés par l'opposition turque avaient été interdits par le pouvoir. En une semaine, au moins 1900 personnes ont été arrêtées. Parmi eux, plus de 300 étudiants auraient été placés en détention provisoire. Ce soulèvement, d'une ampleur inédite en plus de 10 ans a commencé le 19 mars après l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul et chef de file du CHP, le parti d'opposition au président Recep Tayyip Erdogan. Au Gabon, c'est la dernière ligne droite avant les élections. Samedi, les électeurs iront aux urnes pour choisir leur futur président. Qu'attendent les populations de celui qui dirigera le pays pour les 7 prochaines années? Le reportage de notre correspondant Yves-Laurent Goma dans les rues de la capitale.
Carrefour charbonnage à la nuit tombée. Les travailleurs se pressent de rentrer à la maison. C'est l'heure de pointe pour ces chargeurs de taxi-bus qui attendent beaucoup du futur président.
Et nous voulons qu'il nous apporte un changement parce que nous avons assez de richesses ici pour mieux vivre au Gabon.
On voulait tous le travail, les jeunes.
Mille fois le honneur, mille fois madame.
À Awindjé, dans le 4e arrondissement, ces vendeurs de friperies sont en majorité des jeunes étudiants.
Que le prochain président qui va venir nous trouve le travail, c'est ce qu'on veut seulement.
Que le futur président de la République puisse nous accorder un crédit pour que nous tous puissions prospérer dans nos activités.
Plusieurs Libreville-lois ont d'autres attentes.
Moi, j'attends qu'ils puissent mettre à l'aise les étudiants du Gabon et même ceux de l'étranger. Parce que la plupart perçoivent les bourses en retard. Parfois, d'autres ne perçoivent pas, donc c'est un peu compliqué.
Les Gabonais demandent à ce que les prix baissent. Le riz, les denrées alimentaires, la volaille, tout ça, c'est hors de prix.
Francis Jean-Jacques Evouna, président du Conseil gabonais du patronat, attend plutôt le paiement de la dette intérieure.
C'est là une solution pérenne pour faire démarrer notre économie et engager les réformes en profondeur.
Plusieurs personnes interrogées admettent hors micro qu'il ne sera pas possible de satisfaire toutes les attentes de population en un mandat de 7 ans. Yves-Laurent Goma, Libreville.
Après des mois de tensions entre le Panama et les États-Unis, le pays d'Amérique centrale annonce autoriser le déploiement de soldats américains à proximité du canal. L'accord bilatéral publié jeudi donne accès à des zones spécifiques pour des entraînements, des activités humanitaires et des exercices. L'entente exclut toutefois la possibilité d'établir des bases militaires américaines dans le pays. Cette annonce survient après les ambitions américaines affichées et les menaces répétées de reprendre possession du canal de Panama. En République dominicaine, 2 jours après l'effondrement d'une discothèque, le gouvernement annonce la création d'une commission d'experts internationaux. L'objectif, déterminer les causes de la tragédie qui a coûté la vie à plus de 200 personnes. Parmi eux, l'icône du merengue Ruby Pérez, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. On peut voir le chanteur en pleine prestation au moment où le plafond s'écroule sur la salle comble. Des obsèques publiques ont été organisées jeudi à Saint-Domingue. Et la sélection officielle du 78e Festival de Cannes est enfin connue. Cette année, 19 films sont en compétition pour la Palme d'Or. Le directeur artistique Thierry Frémaux a annoncé la venue des cinéastes habitués, de cinéastes comme Wes Anderson ou les frères Dardenne. De nouveaux venus sont aussi attendus en compétition. Au total, une 50aine de longs métrages font partie de la sélection officielle. Une sélection à l'image de l'état du monde, comme l'a expliqué Thierry Frémaux.
La sélection porte les mêmes valeurs que celles qui ont présidé à la naissance du Festival de Cannes, c'est-à-dire les valeurs d'universalité, de pensée, mais aussi de géographie. Il y a des films égyptiens, des films brésiliens, un film ukrainien. Nous avons pour la première fois, je crois, un film nigérian. Il y a un certain nombre de films témoignent de ce que sont les réalités contemporaines. Par exemple, le film de Sébastien Lelio sur les combats des féministes chiliennes, ou de manière peut-être plus distanciée, mais néanmoins très présente à notre monde, cet essai cinématographique de Raoul Peck sur George Orwell, dont les écrits des années 30, des années 40, dont l'existence de sobriété, d'intégrité, que Orwell s'est promis à lui-même, il ramène ça au présent pour interroger notre époque. C'est aussi une sélection qui va rassembler des thèmes éternels, le cinéma lui-même, Et puis l'amour qu'on retrouve partout parce que c'est pas prêt de disparaître. Et en tout cas, cette sélection en porte la trace.
Les précisions du directeur artistique du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, qui met fin à ce journal.